Lise, vous déménagez votre mère qui habite au même endroit depuis 50 ans.
Oh!
Salut, Lise!
Oh! Oui!
Ça, c'est pas facile incroyable. Après 50 ans, hein?
Oui, elle a eu très peur de la pandémie pour vendre sa maison. Puis là, finalement, la pandémie, bon, ça s'annonce bien. Fait qu'elle s'en va en résidence. Elle a 87 ans, demeure là depuis 51 ans. Et puis là, elle habite le premier et le sous-sol. Tout seul, les garde-robes sont pleins. Vertaillés de toutes les grandeurs, de toutes les sortes. Fait qu'on est là-dedans, on est pur. La maison est à vendre présentement, donc elle attend des visites ce week-end. Et dans Mercier, là, Schlager Maisonneuve Mercier, un triplex. Fait que c'est sûr qu'il en reste encore des maisons. Oui, mais t'inquiète, elle dit, oh, il fallait que je vende pas, mon Dieu.
Oh mon Dieu, rassurez votre mère, là, un triplex dans Mercier, je pense pas qu'elle vendra pas. Ça va bien aller. Le plus grand défi, c'est d'épurer les biens accumulés pendant 51 ans. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça, hein? même après 25 ans. Là, je veux dire, c'est un bagage d'une vie qui est dans une maison.
Excellent. Oui, ça fait 2 semaines. Moi, je m'y rends là, 2-3 fois par semaine. Puis chaque morceau, chaque vieux Tupperware, chaque morceau de linge a une histoire. Fait que c'est sûr que c'est difficile. Mais bon. On va y arriver, c'est certain.
Et Lise, là, vous direz à votre mère, là, moi, j'ai des auditrices la nuit qui m'appellent, qui sont dans des RPA. Et le portrait qu'on en fait ou qu'on en pense est peut-être erroné. Mais toutes les auditrices qui sont là-dedans me disent que c'est le party. Hors pandémie, là. Il y a des activités sociales. Tu reçois des visites parce que tu te fais des amis sur ton étage. Joue aux cartes, une soirée de disco mobile, de danse en ligne, Hawaï, la rumba, puis tout ça, le continental, une fois par mois.
C'est non, vraiment c'est pas ça qui m'inquiétait. Ma mère demeure à Montréal. Elle est née à Montréal. Elle a participé, fait partie de toutes les paroisses, là, la FADOC, ainsi de suite.
Bien sociale.
Oui, mais c'était le fait d'être enfermé. Là, on dit que bon,
C'est fini,
ça.
Ouais.
C'est ça. Mais le fait
une place extraordinaire, là, c'est en face des Tours Olympiques, dans son
oui.
coin.
Ouais. Je pense que je le sais, c'est où. Oui, oui.
Phase 2, là, puis c'est merveilleux.
Ben, en tout cas, bonne chance. Bonne chance pour chaque objet. C'est très émotif, hein. C'est pas juste du matériel. Après 51 ans, c'est toute une vie. Alors, merci beaucoup, Lise, puis bon déménagement à votre mère.
Et
merci
plein de nouvelles amies à votre mère. Salut, Lise.
Elle va la vendre, sa maison. Je suis pas inquiète.
Colette, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ben oui.
OK, moi, c'est pour vous raconter un peu de notre aventure qu'on a eue. On a vendu notre maison, puis on s'en est racheté un autre. Mais le problème avec la nouvelle maison, on était supposé de l'avoir le 15 décembre. Puis finalement, on l'a eu juste le 1er avril à cause que les deux personnes, c'est-à-dire une famille reconstituée, mais des personnes âgées, puis ils étaient rendus dans un centre pour Alzheimer. Mais l'agent d'immeuble ne savait pas qu'il fallait homologuer la procuration. Et celui qui vendait la maison, lui non plus, il n'était pas au courant. Puis lui, il n'avait pas le droit de signer pour la maison non plus.
Et mon Dieu!
Ça a été une saga quand même assez longue, mais finalement, tout s'est réglé, là. Puis là, ben, on l'a eu le 1er avril au lieu du 15 décembre. Fait que c'est aussi de faire attention que les personnes ou que l'agent d'immeuble soit au courant que si les personnes sont Alzheimer, il faut qu'il y ait une homologation de fait avant de mettre la maison à vendre.
Oh mon Dieu, ben oui, ça c'est important, la procuration et tout ça. Il faut avoir le mandat de vendre la maison. Donc, les gens qui signent le contrat de courtage, c'est important de vérifier qu'elles ont le pouvoir de vendre la propriété ou bien que les gens ont l'aptitude aussi de vendre la propriété. Hein, Jeffrey, nous, comme courtiers, là, si on voit là qu'il y a un client...
Mais là, c'est le courtier qui a manqué là-dedans. Là.
Ben moi, je peux pas juger, là, mais c'est clair que moi, si je me présente chez quelqu'un, exemple, qui vit toujours dans la maison, mais que j'ai un doute sur son aptitude à vendre. Tu sais, quelqu'un qui aurait justement, qui serait, qui aurait l'Alzheimer puis qui serait atteint assez. Quand j'ai un doute, j'essaye de parler à la famille aussi, là. Tu sais, avez-vous une fille ou un fils à qui je peux, tu sais, puis c'est là qu'on s'informe. C'est important d'aller au-delà de ça parce que c'est beau prendre un contrat de courtage, mais si, exemple, le vendeur est jugé inapte, ben la transaction pourra pas se faire. Puis si quelqu'un veut signer à sa place, c'est important que les documents officiels soient signés en conséquence. Donc soyez vigilants là-dessus. Puis Colette, bravo de vous être débrouillée pendant tous ces mois en pleine pandémie, là, c'est quelque chose.
Merci Colette, un appel pertinent. Bonjour Henri, on vous écoute.
Bonjour Jeffrey, bonjour à tous. Moi et ma femme, on a acheté une maison En fait, on a une offre d'achat acceptée pour une maison dans le nord de Montréal. Et on a fait affaire avec la famille. Très difficile, l'occupant ne voulant pas faire visiter la maison. On avait des photos à l'intérieur qui nous a donné une idée. Nécessairement, ça a eu une implication sur le prix de vente. Maintenant, comme on s'enligne pour être chez le notaire bientôt, ben, on a mis de la pression pour
visiter la maison.
Ben oui, pour l'occupant de la maison, c'est quelqu'un de la famille, et il laisse entendre qu'il ne quittera pas.
OK, mais là, c'est parce que là, il y a quelques éléments dans votre dossier. Là. Vous, votre promesse d'achat est acceptée, tout est fait, donc on attend d'aller chez le notaire.
Par la succession, on est prêt à s'en aller chez le notaire.
Oui.
Et l'occupant, qui est un membre de la famille, lui, il dit, moi, je sors pas de là.
OK, est-ce qu'il y a un bail?
Verbal,
oui. Bien là, c'est sûr que les vendeurs ont une responsabilité.
Il payait un certain montant. On en a tenu compte dans le prix d'achat du fait qu'il y avait un bail à un prix dérisoire. Maintenant, c'est pour ça qu'il veut pas sortir. Là, je me pose la question, quand on part chez le notaire, après ça, je fais quoi?
Bien là, c'est parce que vous l'achetez pour l'occuper, la maison?
Oui.
Est-ce qu'il y avait quelque chose de prévu dans la promesse d'achat à cet effet-là, que la maison était libre? Que l'occupation, là, c'était le même jour que chez le notaire.
Dans l'offre d'achat, il était mentionné que l'occupant payait avait un bail verbal et payait 500 $ par mois.
OK, parce que c'est prévu dans la promesse d'achat. Aviez-vous prévu une clause comme quoi il quitte au moment de la prise de possession?
J'ai été informé par la famille comme quoi qu'il pourrait y avoir problème avec ça. Mais on s'est dit, bon, ben, si on devient propriétaire, il n'y aurait pas le choix, là. Il va être obligé de quitter ou quelque chose comme ça. Mais visiblement, ça ne sera pas le cas.
Ben, un contrat verbal, ça peut être aussi valable.
Ben,
qu'un
c'est
contrat
ça, là. Je veux dire, c'était au vendeur de se débrouiller avec ça parce qu'ils vous vendent une maison avec une occupation possible. Et là, si vous ne pouvez pas l'occuper, vous êtes lésé aussi d'une certaine façon.
Vous pouvez comprendre un petit peu, je suis quand de famille, puis le vendeur dit, ben, je vends à prix réduit avec le problème.
Oui, bien là, c'est tout un problème. C'est parce que si la personne ne sort pas, vous ne pouvez pas rentrer. Écoutez, il y a des procédures pour ça. Vérifiez aussi avec le notaire en question, mais il y a des procédures parce que dans certains cas, un bail verbal peut aussi avoir une certaine incidence. Donc, c'est clair que vous achetiez pas une maison pour la louer 500 $ par mois. Là, vous l'allez habiter
mais
dedans.
Pas du tout.
Puis quelle est la date prévue, Monsieur Henry?
Elle est 15 juillet.
Donc, ça s'en vient bientôt, puis cette personne-là a rien trouvé. Il faudrait que vous reparliez au
vendeur. Non, elle n'a pas rien trouvé. Elle cherche rien.
Ah ouais, elle cherche rien. Ça. Non, là, c'est ça. C'est parce qu'il faudrait que vous reparliez. Avez-vous un courtier dans le dossier ou vous avez acheté d'un particulier?
On a acheté d'un particulier.
Bon. Écoutez, moi, je vous dirais, parlez à votre notaire. Eux, ils en ont vu de toutes les couleurs, là. Donc, peut-être qu'ils pourraient vous recommander quelque chose. Puis, c'est vraiment du cas par cas, mais il faut vraiment parler au vendeur. Moi, j'ai pas le document sous les yeux de votre promesse d'achat, mais c'est clair que si l'occupation est prévue telle date, il faut qu'il libère légalement.
Puis peut-être que la seule solution, ça va être de s'entendre avec la personne en payant la personne.
Exactement, mais là, c'est parce que c'est pas à vous de payer. C'est pas à vous de payer ça. Si vous avez eu une entente avec les vendeurs, réglez ça avant d'aller chez le notaire, là. Tu sais, s'il veut pas quitter, c'est peut-être que vous avez une réduction de prix à avoir aussi, là. C'est quand même important si vous pouvez pas occuper la maison. Alors, regardez ça, Henri. Essayez de reparler au vendeur, parlez au notaire et faites toutes les démarches possibles pour que cette personne-là quitte ou bien que vous ayez un dédommagement et qu'il y ait entente ou que s'entendre avec cette personne-là qui leur donne un montant d'argent pour que ces gens-là quittent là, le plus tôt possible.
Je pense que c'est la seule façon.
Ben oui.
Merci, Henri. Bonne chance.
Ne signez pas si ce n'est pas réglé, Henri.
Oui, très important. 11h48, on revient pour le dernier droit de l'émission après ceci.